In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bienvenue des Ruisseaux, pain tendre, et likez leur page Facebook pour les nouveaux arrivages de bières de microbrasserie.
CJMD 96.9 FM Lévis est l'alternative radiophonique par excellence au Québec. Supporte ta radio et implique-toi en devenant membre au www.969fm.ca. Tu y trouveras quelques avantages et de nombreux partenaires. 969fm.ca.
Parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis.
96.9.
96.9.
L'alternative radiophonique.
La bulle immobilière. La bulle avec
votre animateur
Jean-François Morin.
Jeff Morin.
Courtier immobilier. Et son co-animateur
Kevin Filion.
À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier.
Et on jase
des questions,
des réponses
pour tout ce que vous devez savoir
dans l'univers immobilier.
La bulle immobilière.
Bienvenue à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage. Salut Kevin, comment ça va?
Ça va super bien, toi, Jeff?
Ça va super bien. J'ai vraiment l'honneur d'avoir vécu une situation ultra particulière dans ma vie personnelle. Puis,
L'honneur?
Ben, l'honneur, je sais plus trop
le
que...
privilège.
Je sais même plus si c'est un privilège. En tout cas, présentement, je trouve ça pas mal moins le fun. Mais écoute, Kevin, je me suis fait frauder ou voler mon identité récemment.
Oui.
Puis ça fait en sorte que tu vis une situation de stress quand même importante. Puis tout ça se passe dans ma compagnie de courtage immobilier où ce qu'ils ont accès à tous mes comptes de banque, à toutes mes informations personnelles. Puis j'ai vu que mon dossier de crédit a été consulté aussi. C'est stressant. On sait pas quoi faire. La banque gèle mes comptes pour faire en sorte que pas aucun retrait se fasse. Puis Christy, ils ont réussi à sortir 14 000 pareil du compte de banque. Puis moi-même, je suis même pas capable de faire des virements de mes comptes quasiment 14 000.
C'est malade.
Puis là, j'étais comme, wow, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis on avait eu l'occasion de faire une pré-entrevue en mars pour la période de confinement. Puis malheureusement, on a dû reporter notre entrevue. C'est aujourd'hui qu'on reprend notre entrevue. C'est avec Sylvain Paquette. Bonjour, Sylvain.
Bonjour.
Je suis vraiment content que vous acceptiez encore notre invitation. Encore une personne sur Montréal. Maintenant, il va falloir arrêter de le dire.
Oui, c'est rendu une régularité. C'est la norme.
C'est la norme, effectivement. Puis, Sylvain, toi, tu es vice-président de l'Institut canadien du crédit. Tu es un spécialiste de la fraude, un spécialiste du vol d'identité, puis tu es une personne qui s'y connaît très bien. Est-ce que je me trompe?
Exact.
Exact. Puis, écoute, je suis content que tu sois là parce qu'après l'émission, tu vas pouvoir me QA sur qu'est-ce que je dois faire dans mon dossier. Mais on a eu l'occasion de s'en reparler aussi. Puis avant même que l'émission commence, vous étiez déjà un coup de cœur sur la prochaine émission qu'on voulait faire. La bulle immobilière se veut une émission spécialisée sur l'immobilier. On vient parler de différents sujets, que ce soit du financement, etc. Puis là, on va peut-être amener un petit peu plus le niveau de la fraude immobilière, un petit peu plus niché au niveau de l'immobilier. Vous avez été cofondateur avec du BUC, qui était aussi avec un associé qui, lui, était un ancien lieutenant en fraude.
Oui.
Vous êtes aussi auteur de face cachée du dossier de crédit.
Mm-hmm.
Puis, maintenant, vous êtes vice-président de l'Institut canadien du crédit, c'est ça?
Exact.
Good. Est-ce que vous voulez nous parler un peu plus de votre parcours, de où est-ce que vous partez vraiment pour commencer dans la fraude? T'sais, sûrement qu'on n'arrive pas à la fin du cégep et qu'on dit « bon, ben parfait, je m'en vais à l'université. »
Concentration fraude.
Concentration
pas
fraude.
Passé au cégep, moi.
Exact.
Tout ça a commencé, je me suis occupé d'un groupe de victimes qui ont été fraudées dans les années 2006. Puis plus tard aussi, je me suis fait frauder moi-même de près de 200 000 $. Puis c'est là que ça m'a donné le coup de grâce pour me lancer à plein temps dans la prévention de la fraude, puis aider des gens qui ont été fraudés aussi.
C'était quoi ton expertise avant ça? Est-ce que tu étais déjà
dans le domaine financier? J'ai commencé dans le domaine de l'automobile. Je suis un de ceux qui a relancé la deuxième chance au crédit dans les années 2000. Puis par la suite, j'ai quitté le domaine de l'automobile pour m'en aller travailler dans l'insolvabilité, donc avec des syndics de faillite. Donc, je suis devenu consultant en insolvabilité. Puis plus tard, après, quand j'ai écrit mon livre en 2011, il y a des courtiers hypothécaires qui m'ont invité dans un sous-sol pour parler du livre. Et là, ils ont appris qu'on pouvait corriger un dossier de crédit en 48 heures. On dit, bien, voyons donc, c'est impossible, ça se fait pas.
Ouais.
Je dis, ben oui, il existe un formulaire chez Equifax qui fait ça. Et c'est pas corrigé en 48 heures comme tel, mais l'enquête débute en 48 heures. Puis, à l'intérieur de 5 à 10 jours, les corrections peuvent être apportées. Et là, il y a des courtiers qui m'ont dit, voyons, ça fait 30 ans, je fais ça, comment ça qu'on m'a jamais dit ça? Alors, j'ai été invité comme ça au kick-off de Hypotheca en 2012. Et là, je me suis ramassé devant 200 courtiers pour expliquer ça. Et là, par la suite, j'ai été invité chez Multiprêt, aux architectes hypothécaires, chez Intelligence, à peu près toutes les agences. J'ai formé des courtiers hypothécaires sur la compréhension du dossier de crédit, comment corriger. Et là, finalement, les courtiers me disaient, ben là, c'est trop compliqué de corriger, peux-tu nous aider? Alors, à ce moment-là, je me suis associé. J'avais déjà, qui travaillait pour moi, le M. Terrien, qui était lieutenant aux fraudes, c'est un ami personnel.
Oui.
Puis on s'est associé ensemble, on a parti de BUCC, on était allé voir une firme, on a fait faire un branding. Donc, ça s'appelait Bureau canadien du crédit pour BUCC. Et c'est là qu'on a parti ça. Et on est venu en aide là, aux gens dans le domaine. Puis en 2016, on s'est fait frauder. Alors, imaginez, je travaillais avec une police, puis on s'est fait frauder. Et,
comme quoi, on n'est jamais à l'abri.
Non, j'ai dû vendre la compagnie peu de temps après. Là, suite à, ça a coûté très cher. Et par la suite, bien, je me suis dissocié de la compagnie tout récemment. Là, okay. Donc, j'ai quitté. Puis maintenant, je suis comme consultant indépendant en gestion et prévention de la criminalité financière. Et je suis aussi, depuis plusieurs années, mais là, j'ai été nommé parce que je participais aux rencontres de conseil d'administration de l'Institut canadien du crédit. Je suis aussi membre. Et maintenant, bien, je suis maintenant vice-président. Et mon devoir, c'est de faire connaître l'Institut ici au Québec. C'est un organisme sans but lucratif qui a été créé en 1928 par le gouvernement fédéral. C'est une association professionnelle de directeurs de crédit. C'est très connu dans l'Ouest canadien, mais ici au Québec, depuis une vingtaine d'années, là, ils n'ont pas vraiment... Ça a été fort un certain temps, puis ensuite, c'est tombé comme un petit peu en sommeil. Alors, mon devoir à moi, c'est de promouvoir l'Institut ici au Québec et de faire connaître là, auprès des institutions financières, des professionnels du crédit, ce magnifique joyau qu'on a, qui est l'Institut canadien du crédit.
OK. Puis il y a plusieurs sphères ou plusieurs... spécifications qui gravitent autour de ça, ton mandat au travers de ça.
Bien, moi, c'est surtout l'aspect de la fraude, parce que l'Institut, ça s'adresse pas aux consommateurs, ça s'adresse aux entreprises, aux institutions financières. Donc, c'est d'amener l'expertise que j'ai en matière de fraude pour en faire bénéficier là, aux membres de l'Institut canadien du crédit.
OK.
Puis, tu sais, moi, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer en vrai, en personne, en formation. C'était avec la Banque Scotia. Je tiens à remercier Luc Saint-Amand de m'avoir invité justement dans un souper de Noël pour remercier les courtiers, etc. Puis vous étiez là pour donner une formation. Puis moi, j'avais resté ultra impressionné de par les moyens que les fraudeurs utilisent pour pouvoir usurper nos identités, usurper nos numéros de téléphone, courriel, etc. Puis j'étais comme, ben voir que ça existe, voir qu'on est capable de faire ça. Puis j'étais comme, oh, là, il faut être vraiment prudent dans tout ça.
C'est un univers qu'on connaît pas.
Vraiment. Puis on
de se faire frauder, là.
Oui.
Je veux dire, c'est un univers qu'on connaît pas. Puis comme vous dites, si votre entreprise s'est faite frauder alors que vous étiez, dans le fond, une barrière contre ça. Fait que je sais pas si c'est des détraqueurs qui avaient le goût de revenir contre vous, mais ça prouve aussi que personne n'est jamais à l'abri de ça, puis qu'ils ont des moyens.
Les fraudeurs sont très audacieux.
Ouais.
À chaque année, pour l'Institut canadien du crédit, je prépare le colloque sur la fraude. Alors, il y a tout près d'une trentaine d'institutions comme Revenu Québec, SPVM, Il y a plusieurs institutions qui sont venues, là, qui ont commandité même cet événement-là. Et lors du dernier colloque, on a identifié 5 fraudeurs qui étaient présents dans la salle.
Okay.
Et les policiers nous ont dit, oh, lui, c'est un fraudeur, lui, c'est un fraudeur.
C'est de la veille stratégique.
On le savait, oui. Ouais. Mais eux, ils se tiennent au courant.
Ah, oui.
Et à la fin, lorsqu'on paquetait les trucs pour mettre ça dans l'auto, là, ben, ils sont venus nous aider. Puis, ça a l'air de rien, là. Puis là, ils nous aidaient à mettre le stock dans l'auto. Ils sont venus prendre un verre avec nous après. Pas les 5 fraudeurs, il y en avait juste un. Okay. Mais c'est pour montrer comment ils sont audacieux.
Et
là, j'étais assis avec un important vice-président d'une agence de crédit, tu sais. Puis on prenait un verre ensemble. Puis le fraudeur était assis là. Moi, je savais qu'il l'était.
C'est ça.
Lui, le fraudeur, ne savait pas que moi, je savais qu'il l'était, tu sais. Puis à la fin, quand il est parti, j'ai dit à mon collègue à côté, est-ce que tu sais, c'est qui ce gars-là? C'était un fraudeur. Mais il n'en revenait pas. Il dit, mais comment il peut venir aussi proche de nous?
Ouais.
Ben, ils viennent aussi proche pour créer des liens, aller chercher de l'information. Puis,
écoutez, c'est un univers qui se brasse beaucoup de sous. Vous disiez hors d'onde avant l'entrevue que, tu sais, oui, ça peut être des petites fraudes de quelques centaines de dollars, mais il y a des gens qui se mettent des millions et des millions en poche.
C'est une. On parle que la fraude au Canada, là, c'est une industrie de 2 milliards par année.
Wow.
2 milliards, c'est énormément d'argent. Et c'est pas strictement le crime organisé. Là. Ça peut être des organisations terroristes aussi qui vont se financer à travers ça. Et aussi du crime qui se fait à l'international. Mais généralement, c'est pas mal les trois qu'on va retrouver. Là. Le crime organisé, les organisations terroristes, puis des individus seuls, c'est plutôt rare, là, mais c'est souvent des corporations qui ont pignon sur rue même qui font ça.
Parce que veux pas, il faut avoir une organisation, il faut être organisé pour réussir à mettre tous les plans. Puis tu sais, veux pas, il y a des notions aussi très techniques qu'on doit avoir au niveau informatique, au niveau accès de l'information, au niveau PR,
c'est sur le volume,
etc.
Aussi. C'est sur le volume qu'ont les gens, fait que ça prend des ressources pour...
Il y a un modus operandi qu'on reconnaît chez tous les fraudeurs qui fonctionnent toujours de la même manière. La première chose, c'est qu'ils vont cibler un segment d'industrie. Supposons, dans ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'immobilier. Donc, ils vont cibler l'immobilier. Ensuite, ils vont aller étudier le secteur choisi. Donc, ils vont prendre des cours, ils vont aller dans les soirées d'information, les soirées du club immobilier, par exemple, du mot facile. Ensuite, ils peuvent même suivre leur cours de courtier immobilier. Après ça, ils vont identifier une faille dans le système. Vous, en tant que professionnel de l'immobilier, vous savez où ils sont les failles, vous en voyez. Fait qu'ils vont identifier cette faille-là. Ensuite, ils vont se recruter une équipe pour être capable de contourner cette faille-là, puis ensuite, ils vont mettre leur plan exécution. Et c'est arrivé, un bel exemple, un prêteur hypothécaire là qui s'est fait frauder en 2016 pour 1 milliard, je pense, même c'était plus qu'un milliard de dollars, là, qui était un prêteur là, de l'Ouest canadien, là. Qui est très connu, là, que je nommerai pas pour le moment, mais eux se sont fait frauder. Puis c'est un groupe de 35 courtiers hypothécaires qu'ils ont fraudé pour tout près d'un milliard.
OK.
Puis là, on va parler de la vraie fraude, mais tout de suite après la pause.
CJMD 96.9.
On est de retour à la bulle immobilière. Vous êtes avec Jean-François Morin, Kevin Filion. Aujourd'hui, on reçoit Sylvain Paquette, vice-président de l'Institut canadien de crédit. On parle de fraude immobilière, de fraude en général. Puis, on a parlé un petit peu hors d'onde, mais c'est quoi la différence entre une fraude et un vol? Parce que c'est difficile à discerner exactement. Est-ce qu'on se fait frauder ou on se fait voler?
Bien, tout est une notion de consentement. Dans un vol, la personne va prendre vos biens sans votre consentement, il va vous en priver de la jouissance. Alors que dans une fraude, c'est qu'on va obtenir ce bien-là par le biais de votre consentement en faisant usage de moyens trompeurs ou moyens dolosifs, fausses représentations. Donc, c'est vraiment ça qui fait la distinction, c'est le consentement. Dans un, il n'y a pas de consentement. C'est comme les crimes de nature sexuelle, ce qui détermine entre une relation consentante puis un viol, c'est le consentement. C'est la même chose avec la fraude et le vol.
On s'entend que dans les deux cas, c'est non consentant malgré le consentement.
C'est ça. Okay.
Ouais, c'est ça. Puis une des choses que j'ai regardées au niveau des statistiques que j'avais lues par rapport à ça, il y a quand même plusieurs faits saillants qui sont intéressants au niveau de la fraude. Est-ce que vous voulez nous donner un petit peu de chiffres par rapport à tout ça?
Bien, par exemple, on sait que la fraude en général, là, ça rapporte aux fraudeurs, c'est une industrie là, d'environ 2 milliards par année au Canada. Donc, c'est beaucoup d'argent qui est en jeu, d'une part. Les fraudeurs, bien, ils proviennent de trois endroits, soit que c'est le crime organisé ici, soit que ce sont des organisations terroristes qui se financent par le biais de ces activités-là, ou ça va être tout simplement des entreprises qui ont pignon sur rue dans d'autres pays et qui vont frauder ici là, pour faire de l'argent. Puis ce qui est malheureux souvent, c'est que ces entreprises-là, dans d'autres pays, les jeunes, par exemple, ils vont être recrutés, puis ils vont être perçus comme des Robins des Bois par leur communauté. Parce qu'ici, nous, on vit dans l'opulence, au niveau économique, là, on a souvent des blocus économiques contre ces pays-là. Fait que pour eux, de venir nous frauder, c'est commettre un acte héroïque, et ça leur permet de ramasser des fonds pour des hôpitaux, des écoles dans leur communauté.
C'est un objectif noble pour eux.
Oui, c'est ça.
Puis vous disiez qu'il y avait des ressources où il y avait des regroupements ou des boiler rooms, c'est-à-dire des endroits vraiment spécialisés ou même des villes, en fait.
Oui, en fait, en Roumanie, il y a une ville là, surnommée Ackerville, où ce que, d'une part, c'était un petit village au départ, puis un fraudeur notoire qui s'est installé là, puis il est allé chercher des équipes pour travailler avec lui, puis ensuite, ben, il disait, ben là, ça prend des écoles, ça prend des... Il faut agrandir les hôpitaux pour accueillir tout ce monde-là qui vient de travailler pour lui. Donc, ça a commencé comme ça, puis c'est devenu une ville là, qui a tout près de, je ne sais pas combien d'habitants, là, mais c'est assez immense, puis ça s'appelle Ackerville. C'est le surnom donné. Là, allez voir ça sur Google, vous allez rester surpris, il y a des vidéos qui en parlent. Mais il y a beaucoup d'endroits dans le monde où est-ce qu'on va retrouver ça. Chez nous, ici, on appelle ça des boiler rooms. Un boiler room, c'est un endroit où autrefois, on retrouvait, par exemple, dans les écoles ou les églises, la salle de chaufferie. C'est là qu'on descendait, où ce que c'était bruyant, puis il faisait noir, puis c'était là souvent étaient commis les petits crimes obscurs. Hein? Ouais. C'est là qu'étaient les conspirations étaient faites là. Donc, le boiler room, c'est un endroit où le crime organisé s'organise. Moi, j'ai eu l'occasion d'en visiter un en 2011. Il y avait quelqu'un qui m'a appelé comme ça, quelqu'un que j'ai connu dans le domaine de l'automobile. Puis, qui m'a dit, Sylvain, j'aimerais ça te référer ma clientèle, j'aimerais ça que tu viennes me voir, tu sais. Fait que je dis, OK. Habituellement, quand quelqu'un me dit ça, la première chose que je fais, je vais taper son nom sur Google. Ce coup-là, je l'ai pas fait. Parce que c'est quelqu'un que j'avais connu, puis dans ma tête à moi, c'était quelqu'un d'honnête. Mais aujourd'hui, je le fais tout le temps maintenant, je tape sur Google.
C'était là, correct avec Kevin Fillon puis moi, tout.
Ouais, et là, si ça sort fraude, AMF, poursuite, article de journaux, c'est sûr que je vois pas, je retourne même pas l'appel.
Ouais.
Mais là, ce coup-là, je suis allé là-bas. Puis quand je suis arrivé là, c'était une petite maison dans un sous-bois avec plein d'autos de luxe dans le cours, tu sais.
Oh.
Et il y avait une porte sur le côté, là, une porte blindée avec une caméra, puis tout ce qui manquait, c'était la petite slide là, qui ouvre ouais. avec le russe qui te regarde,
ouais,
c'est malade, le mot de passe. quand j'ai sonné, on m'a ouvert, c'était une réceptionniste là, qui est venue m'ouvrir, qui était sûrement qui travaillait sûrement dans les clubs de danseuses les fins de semaine, là, parce qu'elle aurait pu être commanditaire pour une compagnie de coussins gonflables, là, ouais. Je veux dire, c'était impressionnant.
Une réceptionniste.
Et, oui, et l'intérieur de cet endroit-là, c'était fini comme un luxueux condo là, de l'île des Sœurs. C'était tout en bois de rose, des divans italiens, la machine à café de 10 000 $. Et là, je me suis assis là, puis là, je commençais à paniquer un peu.
Oh, chaud.
Et là, derrière la réceptionniste, il y avait un autre porte blindé. Ensuite, on est venu me chercher et quand on m'a fait visiter, d'un côté, il y avait un mur avec une vingtaine de téléphones IP. Il y avait des noms de compagnies à côté de ça. Puis il y avait des petits cardex. Et là, il y avait deux madames qui étaient assises et eux, leur job, c'était de répondre pour confirmer les emplois. Donc, c'était tout des trucs faux, là. Et puis il y avait des compagnies connues là-dedans, mais ils faisaient des lettres d'emploi avec des numéros de téléphone différents pour que les institutions appellent à ces numéros-là pour confirmer l'emploi. Et de l'autre côté, il y avait une équipe d'infographistes dont il y avait un comptable. Puis là, il faisait des avis de cotisation, des rapports d'impôts, des diplômes, des pièces d'identité. Il y avait tout là-dedans. Puis quand je suis arrivé dans le fond, dans son bureau, à lui, à ce type-là, je pensais rentrer dans les bureaux d'Union Montréal du maître Tremblay. Là, il y avait un coffre-fort, il y avait plein d'argent, il y en avait dessus, la porte ne fermait plus. Et là, il me dit, moi, Sylvain, ma clientèle, là, c'est tel milieu, tel milieu, tel milieu, j'en ai plein pour toi. Alors moi, à ce moment-là, en 2011, j'étais déjà avec mon ami Pierre, l'ancien lieutenant aux fraudes. Et là, quand j'ai vu ça, je dis, non, moi, oublie ça, j'en veux pas de tes clients, désolé. Je pense qu'on s'est mal compris, ouais. Et je suis parti de là. Plus tard, quand on a collaboré avec la Sûreté du Québec dans certains dossiers de fraude immobilière, on a appris que des boiler rooms comme ça, il y en a une dizaine alentour de Montréal et il y en a plusieurs aussi dans Québec. Donc, c'est vraiment des anciens. Et là, si on parle du crime organisé, ça peut être autant la mafia asiatique, italienne, haïtienne, roumaine, russe. Ça n'a pas... Y a pas la fraude, il n'y a pas de couleur ou de culture attachée à ça. Ça touche pas mal tout le monde.
Puis dans cet exemple-là, dans le fond, c'était dans le domaine automobile, fait qu'avec ça, il allait chercher des prêts ou il blanchissait de l'argent.
Non, le boiler room que j'ai visité, il touchait à tout, là. Fait que ça pouvait être soit dans le domaine automobile, l'immobilier. Okay. Donc, il montait des dossiers, ciblait des courtiers immobiliers. Par exemple, à un certain moment, là, ce qu'on a constaté, c'est qu'il ciblait des courtiers immobiliers dont le numéro de permis à l'OASIC est récent. Donc, quelqu'un qui n'est pas expérimenté. Fait qu'il ciblait. S'il s'apercevait que la personne se promenait genre en Mercedes avec des pneus d'hiver au mois de juillet, ça laisse croire qu'elle a peut-être des problèmes financiers. Donc, si elle a des problèmes financiers, une conscience plus élastique et va accepter des dossiers qu'elle accepterait pas normalement. Donc, ils vont solliciter, ils vont viser ce genre de courtiers immobiliers qui ont besoin d'argent. Puis là, ils vont leur arriver avec des dossiers tout préfabriqués, tout montés. Pour que ça passe à la banque.
C'est quand même fou, hein. Tu sais, moi, je sais que j'ai été négligent cet été, puis j'ai changé mes temps en temps.
Je passe les dossiers dans ta tête.
Je ne pense pas à cause de ça, ta barouette. Puis une des choses que je trouvais vraiment intéressant aussi dans différentes statistiques qu'on avait apportées, c'était 60% des crimes qui se faisaient au niveau de la fraude, c'était souvent par des femmes. Mais 9 fois sur 10, les plus grosses arnaques, c'était des hommes.
Oui, ça, c'est dans les fraudes commises en entreprise. Là. Ce sont des statistiques là, qui datent de, autour de 2010-2011. Mais effectivement, en entreprise, souvent, les fraudes proviennent à l'interne du département de comptabilité. Et généralement, ça prend à peu près 4 ans et demi avant de découvrir la fraude. Donc, ça peut être un employé de la paye, ça peut être un employé à l'interne qui va tout simplement détourner. Et ce qu'on voit aussi dans les méga-entreprises, ça, c'est très à la mode, ce sont des employés fantômes. Donc, ils vont créer tout simplement une identité, puis ils vont mettre cette personne-là sur le payroll, puis ils vont collecter le salaire là,
de cette personne-là.
Puis
le télétravail maintenant peut peut-être amener des sources de fraude comme ça. Là. On peut penser, par exemple, à Desjardins où il y a plusieurs personnes qui sont déployées en télétravail. Que maintenant, oui, il y a des rencontres Zoom, mais tu sais...
C'est surtout que les standards ont baissé sur plusieurs affaires, tu sais, dans l'immobilier même. Là.
Souvenez-vous toujours que les fraudeurs cherchent la faille.
Ouais.
Et la matière qui est la plus recherchée, et je fais souvent cette citation-là, c'est une citation du général Sun Tzu qui a écrit « L'art de la guerre ». Et dans une guerre, celui qui détient un renseignement sur son adversaire a un avantage sur lui. Donc, le renseignement, c'est le nerf de la guerre. Le renseignement personnel, c'est l'or noir d'aujourd'hui. C'est ça qui est primé, autant par les entreprises comme Google, Facebook. Hein, vos renseignements, tout ce que vous faites, ils en ont besoin, mais les fraudeurs, c'est la même chose aussi. Ce qu'ils veulent avoir, c'est vos renseignements. Fait que si vous ne les protégez pas, puis vous ne faites pas attention, puis vous faites voler votre identité, bien, vous êtes hautement à risque. Et ça peut aller très loin avec ça. Et le général Sun Tzu disait que si tu ne connais pas ni ton ennemi, ni toi-même, à chaque bataille, tu seras vaincu. Donc, si vous ne connaissez pas comment les fraudeurs vont s'y prendre pour voler vos renseignements personnels, bien, vous allez être facilement attrapé. Je donnais souvent une petite explication d'une manière que les fraudeurs vont procéder. Par exemple, vous allez acheter votre café. Je t'ai vu tantôt avec ton café McDonald's. Bon, ben, pendant que tu attends la commande à l'auto, il y a un fraudeur qui peut être assis dans le stationnement qui, lui, va avoir un routeur qui va être connecté à un ordinateur et son routeur va émettre le même signal que celui du McDonald's. McDonald's Guest, mais avec un signal plus fort. Donc, par défaut, si ton cellulaire se connecte sur tous les Wi-Fi ambiants ou c'est déjà connecté sur le Wi-Fi de ce McDo-là, bien, par défaut, va se connecter sur celui du fraudeur. Et là, il va t'envoyer une demande de mise à jour, Flash, Adobe ou n'importe quoi. Et si tu as malheur de cliquer dessus, il vient d'entrer dans ton téléphone. Et là, pendant 2 semaines, il va t'espionner. Il va regarder tout ce que tu fais. Il a accès à tes photos, tes comptes Facebook, tes comptes de banque. Il voit tout, tout, tout. Et après 2 semaines, il va aller dans le buffet des fraudes et va choisir laquelle qui s'applique le mieux pour t'attraper. C'est aussi simple que ça. Et par exemple, pour vos auditeurs, là, si vous voulez, je peux vous faire vivre une fraude en temps réel, drette là, devant vos yeux.
Go! Go.
Et c'est très simple. Et on va le faire ici en même temps en studio. Je vous demanderais de choisir un nombre dans votre tête entre 1 et 10. Okay? Donc, est-ce que tout le monde a choisi un nombre? Parfait. Vous ne me le dites pas, vous le gardez pour vous. Vous allez prendre ce nombre-là et le multiplier par 2. Et?
Range ta calculatrice, Jeff.
Ensuite, vous allez additionner de 8. Et? Vous allez diviser par 2. Et vous allez soustraire avec le premier nombre que vous avez choisi au début. Là, ça va vous donner un nombre. Vous allez prendre ce nombre-là et le transposer sur les lettres de l'alphabet. Donc, 1 étant A, 2, B, 3, C, et ainsi de suite. La lettre qui correspond avec ce nombre-là, vous allez penser à un pays dans le monde qui commence par cette lettre-là. Est-ce que, là, dites-moi-le pas, mais est-ce que vous avez trouvé votre pays?
Oui.
OK. Vous allez prendre la dernière lettre de ce pays-là et vous allez penser à un fruit qui commence par cette lettre-là. OK, tu l'as trouvé?
Oui, ça va.
Est-ce que tu savais que les kiwis, ça pousse pas au Danemark?
Ouais. Mais tu sais, tu vois, moi j'avais le douaneau, là, mais je suis pas sûr que ça existe comme pays. Mais tu sais, c'était le Danemark, ça aurait sorti pareil.
Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, c'est que vous avez fait l'objet d'un stratagème. Donc, je vous ai amené dans un entonnoir dans lequel vous avez cru que vous étiez le seul à connaître le nombre, mais l'idée était pipée d'avance. Et comment ça s'est fait? C'est super simple. C'est que quel que soit le nombre que vous allez choisir, la formule mathématique va toujours vous amener au nombre 4 à la fin. Et le nombre 4, bien, la lettre qui correspond avec ça, c'est la lettre D. Les pays commencent par D, il y a le Darfour, le Djibouti puis le Danemark. Généralement, les deux premiers, on ne les connaît pas. Donc, par défaut, les gens vont dire le Danemark. Et la dernière lettre, le K, donc un fruit commence par K, il y a le kiwi, puis je pense qu'il y en a un autre. Donc,
un autre!
Puis on ne sait pas c'est lequel.
Fait que ça fait en sorte que la majorité des gens vont arriver vers les kiwis au Danemark. Ouais. Alors, une fraude, c'est ça. C'est qu'on vous amène en vous faisant croire que vous avez pleinement votre consentement, que vous êtes libre,
éclairé,
que vous contrôlez la situation, mais dans le fond, vous vous faites avoir. Et quels que soient les fraudeurs que vous allez rencontrer, moi, j'ai vu des fraudeurs là, qui suivent des cours en hypnose, en PNL. Ils deviennent des coachs en affaires, des coachs en immobilier même. Donc, il faut être très prudent parce que ces gens-là vont vous endormir puis vont vous déposséder.
Il faut se méfier de Mesmer, c'est ce que je comprends.
Ouais, c'est ça,
Mesmer,
exact.
Je pense que c'est un bon professeur parce qu'il montre jusqu'où peut aller l'hypnose, tout ce qu'on peut vous faire faire. Donc, faut vraiment être prudent aujourd'hui à qui on fait affaire.
Puis appliqué à l'immobilier, dans le fond, c'est quoi les investisseurs ou les gens de l'immobilier ou les professionnels? Leur vigilance devrait être sur quel genre de situation?
Ça va être dans l'art de manipuler. Par exemple, dans les soirées d'information là, ou de trucs de club immobilier, là, bien, les fraudeurs, là, ils se pointent là parce qu'ils cherchent des victimes. Donc, tu sais, le jeune qui arrive là avec un dossier de crédit parfait, là, puis qui a un petit peu d'argent, puis lui, il rêve d'un parc immobilier puis il veut se lancer dans l'investissement. Bon, de l'autre côté, il y a le fraudeur, lui, qui a agi comme prêteur privé, qui a fait des fraudes en forclusion, qui a un paquet de propriétés à vendre, à rabais, puis là, lui dit, écoute, moi, là, j'ai une couple de propriétés que j'ai repris. Je pourrais te faire un deal là, sur celle-là, mais ces transactions-là résultent de fraude. Donc là, lui, il achète ça, puis là, il pense faire une bonne affaire, mais dans le fond, il a participé à une fraude, puis souvent, ils se font avoir là-dedans parce qu'il y a un flip à travers ça. Il y a de l'argent qui est sorti. Il y a beaucoup de blanchiment d'argent dans l'immobilier. Hein. L'immobilier, c'est le secteur numéro un du blanchiment d'argent.
Puis, tu sais, puis c'est une des raisons aussi, sûrement, que la CANAF nous exige de valider si les gens ont des liens avec des opérations terroristes ou s'ils font partie d'une organisation criminelle. Mais, tu sais, les gens qui vont faire partie de ces organismes-là vont pas dire « Oui, voici ma carte de membre. »
Non, c'est à vous, dès que vous soupçonnez, en tant que professionnel de l'immobilier, une transaction qui laisse croire à du blanchiment d'argent, vous devez la dénoncer auprès de la CANAF. Mais malheureusement, comme vous le savez, bien les fraudeurs ont aussi entré dans l'immobilier. Ils ont des permis d'agent pour certains. Et c'est eux qui vont prendre ces clients-là, justement, qui blanchissent de l'argent pour vendre des propriétés ou en faire la chose.
Puis d'un autre côté, au niveau de l'impact pour eux, ben, tu sais, ça doit avoir un plus petit impact parce que leur but à eux, c'est qu'ils ne gagnent pas leur vie à faire de l'immobilier. Ils gagnent leur vie à faire des fraudes immobilières, là.
Mais il y a beaucoup de gens qui vont aller dans le domaine de la fraude là, parce qu'ils veulent faire de l'argent rapide. Mais souvent, les cerveaux qui sont en arrêt de tir, les plus intelligents, eux, ils se font pas prendre. Eux, ils vont faire 4-5 ans parce que en moyenne, pour prendre un fraudeur, là, ça prend entre 10 et 15 ans. Donc, entre 10 et 15 ans, il a le temps de faire de la fraude en masse. Puis ensuite, il part, là, puis il disparaît au Costa Rica ou en République dominicaine. Ça jette une petite vie là. Puis là, toi, quand tu vas en vacances là-bas, tu les rencontres. Là, ils disent « Ah, mais moi, j'ai réussi dans l'immobilier. Ouais. » Tu sais, non, mon œil, t'as pas réussi, t'as fourré tout le monde. Mais c'est leur façon de faire. Ça, c'est les cerveaux. Pour le reste, c'est beaucoup que c'est plus des hommes de main ou des gens qui sont avides d'argent puis sont pressés parce qu'ils ont ils ont ce qu'on appelle les yeux couleur quincaillerie.
Ah, non, je connais
ça,
pas
ça. C'est des yeux, ben, comme une quincaillerie, on retrouve plein de vices.
Ouais, okay.
Donc, c'est soit les femmes, l'argent, la boisson, la drogue. Donc, ces courtiers-là vont souvent être des hommes de main de ces gens-là.
Eh, hey, boy, c'est quand même impressionnant. On est obligé d'aller en pause. Vous écoutez La Bulle immobilière. On revient tout de suite après la pause.
96.9 FM.
Vous écoutez le 96.9 FM Lévis.
Vous êtes de retour à La Bulle immobilière avec Jean-François Kevin. Aujourd'hui, on reçoit Monsieur Sylvain Paquette, vice-président de l'Institut canadien du crédit. On parle de fraude. Les deux premiers blocs étaient genre à nous donner des frissons. Là. C'est quand même fou, toutes les modus operandi qu'ils peuvent utiliser pour arriver à frauder des gens, puis utiliser leur identité, puis aller retirer des sommes qui sont quand même importantes. Puis ça cause des dommages moraux quand même, des fois plus importants que l'argent aussi. Là.
Oui, effectivement. Des fois, ça a des conséquences que ça peut aller très loin. Là. Je peux vous raconter une petite histoire qui a été un de nos top 5 là, que j'ai vu dans les fraudes, dans les dossiers que j'ai travaillé. Un jour, il y a un client qui nous appelle, qui nous raconte son histoire. Le monsieur reçoit un appel, il dit « Bonjour, monsieur. » On va donner comme exemple M. Tremblay. C'est un nom fictif. Donc, bonjour, M. Tremblay. Mon nom est Sylvain ABC de Sweepstake ABC d'Ontario. Je vous appelle parce que vous avez gagné un magnifique Jeep Cherokee. Et là, il entend en arrière des pétards, du monde qui applaudit. Ouais, puis là, lui, il est tout content. Fait qu'il se surveille, il dit à sa femme, Gisèle, on a gagné un Jeep Cherokee. Lui, il est tout content. Alors là, on lui dit, écoutez, M. Tremblay, on va vous envoyer par FedEx tout de suite toute une pile de documents avec les clés du véhicule. Vous allez tout recevoir ça. Le monsieur, il est fou comme la merde. Fait que deux jours plus tard, il reçoit par FedEx un gros binder avec tous les descriptifs du véhicule, un set de clés. Tout est là. Tout ce qui reste à cocher, c'est la couleur. Il n'a pas allumé que les clés, ça a changé en même temps que la couleur, mais ouais. Il n'a pas allumé là-dessus, mais en tout cas, il a coché une couleur. Et là, il y avait une feuille qui disait, vu que c'est en Ontario, vous devez compléter certains renseignements pour le ministère du Revenu, puis vous devez joindre un chèque pour les taxes puis le transport au montant de 9 400 $. Lui dit, hey, c'est un truc de 70 000, là, 9 400, il n'y a rien. Là. Fait qu'il fait un chèque. Il envoie ça. D'après vous, là, pensez-vous que j'ai reçu son Jeep Cherokee? Non. Hein? Ben non, il ne l'a pas reçu. Mais, ce que vous ne saviez pas, 4 mois plus tard, il reçoit un appel. Ouais, M. Tremblay, c'est syndic Poulain Intel. Je vous appelle parce que on est en train de faire la faillite de la compagnie Sweepstake ABC en Ontario. Puis dans l'inventaire, on a trouvé un Jeep à votre nom. Elle me suis dit, mon Jeep! Ils ont retrouvé mon Jeep! Fait qu'il dit, si vous voulez avoir le Jeep, il dit, faudrait qu'on vous le livre. Il dit, faudrait que vous fassiez un chèque pour les taxes puis le transport. Mais il dit, je les ai déjà payés. Ouais, mais il dit, ça a passé dans la faillite. Fait qu'il dit, refaites un chèque de 9 400 $ puis on va vous envoyer votre Jeep. Après vous, il a-tu reçu le Jeep?
Fausse faillite.
Mais non, il n'a jamais reçu de Jeep. C'est pas fait avoir une fois, il s'est fait avoir deux fois.
Audacieux.
C'est complètement fou. Puis quand on reporte la fraude immobilière, puis les différents vols qui peuvent se faire, là, c'est quoi les principaux méfaits que les gens peuvent faire?
Mais ce qu'on voit le plus souvent dans l'immobilier, là, c'est les vols de titres. Il y a deux façons de voler une propriété, soit par le vol de titre, donc quelqu'un là, qui vole votre titre de propriété, vous n'êtes pas là, vous êtes en Floride, ils vont chez le notaire, font une transaction, transfèrent tout ça. Et ça passe souvent d'un vol d'identité. Ensuite, il y a la deuxième façon de voler une propriété, c'est avec le consentement de la victime. Et c'est ce qu'on appelle une fraude en forclusion. Et ça, il y a beaucoup de magnats de l'immobilier qui se sont mis au monde comme ça. En faisant ce type de fraude-là, parce qu'il n'y a à peu près jamais de plainte portée. Les gens ignorent qu'ils font l'objet d'une fraude. Et la manière de faire, c'est qu'ils vont aller, par exemple, sur des registres comme JLR, et ils vont viser des gens qui font l'objet d'un préavis d'exercice ou d'un avis de 60 jours. Donc, ils vont les approcher, ils vont dire, écoutez, vous venez de recevoir un avis de 60 jours, vous devez 6 000 à la banque, vous êtes 3 mois en retard. Moi, je m'en viens vous aider. Je vais vous donner un coup de main, je vais vous faire un prêt de deuxième rang. On va tout payer ça, puis on va vous arranger ça. Fait que là, les gens disent, hey, wow, il y a du monde gentil, il veille à notre bien. T'sais, écoutez, on comprend ça, votre femme a le cancer, vous avez perdu votre emploi, on est là pour vous aider. Alors, ils vont faire un prêt, mais où est-ce que ça devient frauduleux? C'est qu'ils vont créer un faux défaut sur le prêt pour reprendre la propriété. Fait qu'ils vont viser, par exemple, une propriété qu'il y a une hypothèque de 115 000, la valeur de la propriété est 420, puis le propriétaire légitime, lui, son dossier de crédit est tellement accidenté, qui permet pas de refinancer dans le crédit régulier ou vers du prêt B. Donc, ils vont viser cette personne-là. Et la personne l'ignore. Puis là, ils vont, une fois qu'ils vont avoir créé le défaut sur le prêt, ils vont y envoyer un nouveau préavis d'exercice. Et là, ils vont y dire, ils vont l'intimider. Là, généralement, ils envoient une équipe de baseball, là, ce qu'on appelle une équipe de fier à bras, qui vont débarquer là, mesurer les portes, les fenêtres, le driveway, rentrer dans la maison. Puis là, même si la personne appelle la police, c'est le prêteur hypothécaire, il a le droit d'être là. Donc, là, ils vont intimider les gens. Ils vont dire, ben là, tu as deux choix. Soit que tu me donnes tes clés tout de suite, puis je te laisse 2 mois pour déménager, ou sinon, dans 2 semaines, tout ton stock est sur le terrain dehors, puis t'es expulsé. Fait que les gens ont peur, et sous la menace, vont céder, ils vont signer chez le notaire une dation en paiement, donc ils vont remettre la maison au créancier de deuxième rang, qui est le fraudeur. Puis ensuite, ben ils vont attendre là pour déménager 2 mois. Fait que là, le fraudeur se revire, lui, il va payer la première hypothèque, mais souvent, il débourse même pas, parce que la personne reste là encore. Fait qu'il paye pas la première hypothèque tout de suite. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va flipper la maison. Il va trouver un prête-nom ou quelqu'un dans une soirée d'immobilier là qui rêve de partir son projet, puis il va y vendre la maison. Fait que ça, les fraudes en forclusion, c'est très, très commun. Il y a des gens qui se sont mis très riches avec ça en très peu de temps. Donc, faut faire attention parce que c'est une fraude qui est très peu connue.
Comment on se prévient de ça, dans le sens, à part connaître la crédibilité ou l'identité de la personne à la base, qu'il y avait une petite note dans le contrat en question, tu sais, le prêt que vous dites.
Oui, bien, il y a un dicton qui dit derrière chaque à petits astérix, il y a une obélix qui se cache. Donc, mais ces gens-là, c'est difficile, c'est d'identifier le mens rea, donc l'intention derrière. Ouais. Fait qu'il y a des gens qui font ça, qui vont faire du prêt de deuxième rang, que leur but, c'est vraiment d'aider puis de gagner leur vie avec ça, mais il y en a d'autres que l'intention est tout autre, c'est de mettre la main sur la propriété. Et ça, il y en a beaucoup. J'en ai vu plusieurs, des gens qui ont été victimes de ça. Puis il y a plusieurs stratagèmes qui s'opèrent, plusieurs façons de le faire avec des fausses hypothèques légales de construction ou des prêts provenant d'une réserve autochtone. Il y a plein de façons de faire.
Puis tu sais, les fausses hypothèques de construction, j'ai vu puis entendu ces histoires-là récemment aussi, là, où ce qu'ils faisaient exprès pour faire des travaux puis mettre la personne là, justement en défaut pour racheter la maison moins cher. Puis après ça...
Fait qu'ils te mettent en défaut et ils t'intimident. Fait que rendu là, t'es pris dans le coin. Là.
Ben oui. Puis j'ai même vu des cas, moi, où il y avait un réseau dans des CHLD qui identifiait des gens qui étaient malades, qui n'avaient pas de famille, mais qui avaient une maison. Et là, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils déposaient une hypothèque légale de construction sur la propriété, puis attendaient tout simplement que le propriétaire décède, puis après ça, ils ramassaient la maison, puis la volaient à la succession.
Sans même avoir fait de travaux.
Avoir fait de travaux.
C'est qu'est-ce que les propriétaires, dans des cas comme ça, peuvent faire pour se protéger ou qu'est-ce qu'on doit utiliser comme astuce ou comme conseil?
Bien là, dans le cas où on est en problème financier, c'est de consulter 3 syndics en insolvabilité. Pourquoi 3? C'est pour avoir différentes opinions. Et l'autre chose aussi, c'est de se procurer une assurance-titre. Ça, il y a 3 compagnies qui font ça. Il y a FCT, Stewart Title, puis Chicago. L'assurance-titre, c'est quelque chose qui va nous protéger contre la fraude et le vol d'identité. Donc aujourd'hui, surtout en sachant le vol de données qui est arrivé l'année dernière, là, tout près de 28 millions de Canadiens. Au Québec, il y a 8 millions de personnes qui se sont faites voler leurs données personnelles. On est 8,3 millions d'habitants. Donc, en partant de là, je vous suggérerais fortement de souscrire un assurance-titre. Ça coûte entre 250 et 300 $. C'est bon tant ou si longtemps que vous êtes propriétaire de la maison. Donc, c'est à pas passer à côté.
Ça, c'est pour se protéger contre le vol de titre que vous parliez, qui était le premier exemple.
Oui,
un des problématiques qu'on peut avoir avec ça, c'est de recouvrir à ton titre, de faire une procédure légale pour avoir ton titre de propriété, de racheter ta maison ou d'être de nouveau propriétaire de ta maison. Ben, pour moi, ça doit coûter des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de dollars.
Ça coûte entre 40 et 70 000 $ de frais d'avocat. Ça ne veut pas dire que votre maison, vous allez la récupérer dans le même état que vous l'avez perdue.
Ben oui, c'est quand même fou, là, cette situation-là. Puis, y a-tu des. On parle d'assurance-titre, puis on parle de partenariat beaucoup dans la bulle immobilière pour des investissements, etc. Il y a des vérifications qu'on doit faire justement avec nos partenaires d'affaires. On doit faire aussi des vérifications avec nos locataires pour savoir justement si on n'a pas des fraudeurs à l'intérieur de nos locataires. Quel genre de vérification qu'on doit faire par rapport à tout ça?
Bien, ça donne bien. J'ai mis au point une formation qui va bientôt être disponible là, à travers Sinbad auprès de l'OASIC. Et c'est une formation sur comment enquêter sur des locataires. Parce que il y a certaines restrictions qu'on doit respecter au sens de la loi, mais on peut, à travers les bases de données publiques, aller chercher certaines informations. Tu sais, par exemple, vous voulez pas avoir dans vos locataires un terroriste qui fabrique des bombes, vous voulez pas avoir un free man on the land, là, c'est quelqu'un qui paye pas ses impôts puis qui vous poursuit à vie. Il y a plein de cas, vous voulez pas avoir le club échangiste ou de gens qui font de la prostitution ou qui servent de cette adresse-là des fins de fraude. Donc, il y a des façons de chercher, des façons d'aller voir, et on donne une formation là-dessus là, d'une heure là, avec un UFC.
On parle d'aller plus loin que l'enquête de crédit et le plumitif qu'ils peuvent faire.
Il y a beaucoup plus d'informations. Et même chose, il y a bientôt un cours là, sur comment enquêter un partenaire. Ouais. Parce qu'imaginez, vous vous associez avec quelqu'un, vous êtes 5, vous achetez un immeuble, mettons un 10 logements, et là, cette personne-là, vous ne le savez pas, mais est en procédure de divorce. Alors, quel impact ça va avoir, ça, dans la transaction où la personne fait l'objet d'un contexte de fiducie présumée par Revenu Québec. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Revenu Québec vont déposer une hypothèque légale de plusieurs millions sur la propriété, sur la bâtisse, et là, ça gèle, ça crée des problèmes. Donc, c'est important de toujours savoir avec qui on va s'associer. Si, par exemple, la personne, elle vous le dit pas, puis elle fait faillite, et là, après ça, vous vous retrouvez avec un nouveau partenaire dans votre immeuble qui est un syndic de faillite, là,
ça se peut que ça ne soit pas le même fun. Non.
Ça se peut que ça ne soit pas le même fun, exactement.
Puis, au-delà de ça, au niveau de l'assurance-titre, on achète justement un 12 logements ou quelque chose comme ça, on pourrait prendre justement une assurance-titre en partenariat avec nos chums de gars qui est partenaire justement du 10 logements. On viendrait protéger un peu le titre si jamais il y en a un dans tout ça qui se fait frauder les titres de la propriété, mais on vient se protéger un peu. Est-ce que nos compagnies d'assurance viennent couvrir, par exemple, une certaine...
Bien, l'assurance habitation, généralement, vont couvrir jusqu'à 50 000 environ. Alors, c'est pas suffisant. C'est préférable à ce moment-là de souscrire aussi à une assurance-titre.
OK. Puis est-ce qu'il y a un avenant particulier par rapport à tout ça aussi qu'on peut prendre avec l'assurance?
Oui, dans certaines polices d'assurance habitation, il faut avoir un avenant contre le vol d'identité. Mais encore là, ça va couvrir souvent entre 25 et 50 000 $ mais les frais juridiques seulement.
Donc, tout ce qui est pris directement dans vos comptes de banque, etc., ça sera pas couvert.
C'est ça.
Puis qui paye, par exemple, pour un vol de 14 000 $ dans son compte de banque?
Par exemple.
Comme dans ton cas à toi, l'institution financière va assumer ces pertes-là. Maintenant, j'ai vu dans certains cas, si par exemple le fraudeur détenait ton NIP ou avait certains renseignements pour accéder à ton compte, la banque pourrait refuser tout simplement d'indemniser à ce moment-là.
Parce que tu sais, une des situations qui est arrivée, moi je suis allé directement à la banque pour dire écoutez, j'ai eu un courriel comme de quoi que mon mot de passe a changé, par la suite mon courriel a changé, par la suite j'ai eu un alerte de phishing, puis c'est là que je me suis présenté directement en banque. Elle dit non, elle dit vous avez appelé ce matin pour changer toutes les informations sur votre banque. J'ai dit écoutez madame, j'ai dit c'est sûr que si j'avais fait ça ce matin, je viendrais pas à midi vous dire que ça marche pas là, tu sais. Puis j'ai pas accès à mes comptes, etc. Puis là, ils ont gelé mes comptes par rapport à tout ça. Puis il y a eu quand même des retraits. Moi, c'est là que je fais comme épalant.
Mais là, tu devrais aller t'acheter un billet de 649 parce que dans ton cas, c'est la rapidité d'action avec laquelle tu as fait preuve qui t'a sauvé.
Ouais. Mais...
Parce que ça, la plupart du temps, c'est beaucoup plus long avant qu'on s'en rende compte.
Des fois, ça prend 24, 48 heures. Des fois, c'est plus long.
Puis tu sais, pour vrai, c'était une journée où je t'ai booké jusque-là.
Une des rares journées comme
ouais,
ça.
Une des rares journées.
Oui.
Puis tu sais, quand c'est arrivé, j'ai comme fait, non, tu sais, ça marche pas. Puis je m'en vais direct à la banque. Là. Mais tu sais, j'ai vraiment été chanceux de le faire rapidement comme ça parce que je suis le genre de gars qui aurait dit, écoute, on check ça demain. Je vais le céduler à mon agenda puis je vais le faire. Puis le fait d'avoir bougé rapidement, mais je pense que c'est quand même bien.
Il a été diligent. Fait que là, l'institution, dans ce cas-là, a beaucoup plus de chances de le prendre.
Mais je suis devenu malin en tabarouette. Là, quand la banque elle m'a dit, t'as appelé ce matin pour changer les questions. Je dis, ouais, mais tu sais, si vous posez des questions intelligentes un peu, est-ce que vous avez un relevé par Internet ou par papier?
Ouais.
Tu sais, est-ce que vous avez un compte d'épargne dans votre compte? Il donne la réponse. Est-ce que tu as une carte de crédit dans ton compte? Tu dis oui, bingo, j'ai toutes tes informations, puis on est quand même passé à go.
Écoute, voler une identité, là, c'est très facile. Les fraudeurs utilisent souvent une application qui permet de masquer le numéro de téléphone et d'être déguisé. Par exemple, je pourrais appeler Kevin avec l'application que je l'ai ici, je pourrais même te la montrer. Et là, je t'appellerai avec le numéro de BMO. Je dirais bonjour Kevin, mon nom est Sylvain de BMO Mastercard, de département des fraudes. Je t'appelle parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a fait une demande de crédit sur ton nom en Alberta, puis on voulait valider si c'était bien toi. Évidemment, tu vas dire non, c'est pas moi, je suis tout de suite à Québec, là. Bon, parfait. Écoutez, on va tout de suite bloquer le fraudeur, mais pour des fins de sécurité, on va avoir besoin de t'identifier. Alors, je te demanderai de répondre aux questions suivantes. Donc, quelle est ta date de naissance, ton adresse, ta. Et là, toi, tu vas-tu me donner comme un jambon en pensant, en pensant à collaborer, tu sais, puis arrêter un fraudeur. Mais dans le fond, c'est moi le fraudeur.
Ouais.
Fait que je recueille toutes les informations. Merci d'avoir fait affaire avec BMO. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rappeler le numéro sur l'afficheur.
Ouais.
Et là, si tu rappelles, ça va vraiment répondre BMO.
Ouais, ouais.
Mais
là, c'est le téléphone IP que tu parlais tantôt. Dans
non. C'est une application qui est gratuite qui permet de faire
en
ça.
En plus, bon,
donc, c'est relativement très simple, voler les informations d'une personne. Les gens les donnent d'eux-mêmes.
L'exemple que tu donnes, c'est arrivé à un de mes amis, à Jean-Philippe, que tu connais, puis la personne se présentait comme un lieutenant de l'ARC, l'Agence du revenu. Fait que, à partir de là, il se donne tout de suite une crédibilité au départ, puis il présente un scénario où apparemment, il se serait fait voler, mais dans le fond, il essaie à ce moment-là de te voler ton identité.
C'est quand même fou, là. C'est quand même très fou. Puis, est-ce que, pour finir notre émission, est-ce que vous aimeriez nous conter une histoire rocambolesque de fraude que vous avez vécue ou que, tu sais, vous avez pu dénicher par rapport à tout ça?
Mon Dieu, il y en a une tonne. Il y en a une tonne, mais il y en a une que mon collègue a vécue au cours de sa carrière, là, qui a été une histoire assez rocambolesque, là, moi, qui m'a toujours impressionné. Et c'est la fameuse fraude de la bague. Je vais vous la conter parce que ça tire quasiment de la fiction. Ouais. C'est arrivé dans les années début 2000. Il y a un monsieur européen qui s'est présenté à Montréal sur la rue René Lévesque, puis est allé au Reine-Élisabeth, puis il a loué un étage au complet. Donc, ça coûtait 27 000 par jour. Le monsieur est bien nanti, un monsieur de bonne mœurs, tu sais, bien habillé. Puis, fait qu'il loue l'étage. Ensuite, il met des sécurités dans le coffre, là, des bijoux, des trucs comme ça. Puis, il s'en va sur Sainte-Catherine. Puis, il rentre dans une bijouterie très connue. Et là, il regarde les bagues, il dit « Ah, c'est combien celle-là? Ah, ça, monsieur, c'est 70 000 $. Ouais, c'est pas très joli. C'est quoi celle-là? Ah, ça, monsieur, c'est 125 000. OK, je vais la prendre. » Il regarde ça, il dit « Bon, il dit, OK, ben, il dit, je vais prendre celle-là. » Mais il dit « Là, j'ai pas 125 000 en comptant sur moi, je vais vous faire un chèque. » Ah, il dit « Monsieur, on prend pas de chèque. » Mais il dit « Écoutez, moi, ma banque est au Luxembourg, j'ai des fonds aussi, j'ai loué l'étage au complet au Reine-Élisabeth, tout ça. » Alors, il dit, écoutez, je vais vous laisser les coordonnées de ma banque, tout ça, un chèque, puis vous allez, je vais revenir en fin de journée, puis je vais prendre la bague. Alors, il a laissé le chèque, tout ça. À la fin de la journée, ils ont fait toutes les vérifications, ils ont appelé sa banque, les fonds étaient là, tout était beau. Fin de la journée, il ramasse la bague. Le lendemain matin, samedi matin, il s'en va sur la rue Sainte-Catherine, il va se faire couper les cheveux, rentre dans un barbershop, s'assoit. Et là, il contemple sa bague, puis il dit au barbier, il dit « Ah, elle est pas belle la bague, je la trouve pas de mon goût. » Il dit « Tu veux-tu la voir, toi? » Et là, le barbier, il dit « Elle est vraiment belle, hein? Hey. » Il dit « Combien tu demanderais ça? » Il dit « Va te la vendre 2000 $ 2000, tiens, il dit « Prends-la, il dit, va faire évaluer. » Alors, quel magasin tu vas faire évaluer sur Sainte-Catherine un samedi matin? Ben, je vous dis pas le nom, mais tu vois, c'est chez ce magasin-là qui est très connu. Alors, il se rend là, le barbier se rend là, et là, il présente la bague, il dit « Un gars dans ma chaise, il veut me vendre cette bague-là. » Alors là, le bijoutier regarde la bague, il le reconnaît, tu sais, « Oh! C'est qui t'a vendu ça? » Il dit « Ah, oh, ben, c'est un gars dans ma chaise, il me l'a vend 2000. » Alors là, ils sont tous impressionnés, mais là, tout de suite, appelle le SPVM, les fraudes, et là, la cavalerie débarque au salon du barbier, tu sais, arrête le monsieur. Et là, il sac en dedans la fin de semaine pour fraude, tu sais. Puis, finalement, le lundi, c'était l'action de grâce. Donc, il n'y avait pas de tribunaux. Donc, ça va au mardi matin. Et là, les avocats du monsieur sont là. Et là, bien, finalement, ce qu'ils se rendent compte, c'est que c'est une arrestation illégale. Le chèque était bon. Emprisonnement et détention illégale. Puis, fait que finalement, la bijouterie a dû faire un règlement pour protéger son image corporative de plusieurs millions de dollars à ce monsieur-là.
Aïe, aïe.
Donc ça, c'est le genre de fraude très bien orchestrée, réfléchie et pensée qu'on voit souvent dans le domaine.
Mais il avait quand même la capacité, ce monsieur-là, de faire cet achat-là. Tu sais, comme tu dis, le chèque était legit, tout était
là. Le chèque était bon, mais
il y avait des gens en tête qui allaient...
Il a profité de l'affaire du département de sécurité de la bijouterie, qui a tout de suite présumé que c'était frauduleux.
Oui.
Parce que la bague est à lui, il peut la vendre à qui veut, il l'a payé. C'est ça, il peut faire ce qu'il veut.
C'est quand même fou, hein, tu sais, dans les histoires de Catch Me If You Can, là, on le vit. Puis je pense que je vais le réécouter ce soir pour être sûr là, d'être dedans. Puis tu sais, dans d'autres fraudes que vous avez mentionnées aussi, c'est au niveau des cartes d'assurance maladie. Ça, c'est quand même assez impressionnant aussi, là.
Oui, bien, puis si on prend le nombre d'habitants au Québec, là, puis le nombre de cartes d'assurance maladie en circulation, là, vous allez voir que
ça fait pas les
ça correspond pas. Il y a plus de cartes que de population.
Puis juste avant de rentrer en onde,
Oui.
Tu as reçu un appel aussi?
Oui, un appel frauduleux. Ça, c'est des centres d'appel en Inde là, qui sont orchestrés à partir d'ici. Et la façon de faire, le stratagème derrière ça, c'est que les fraudeurs savent qu'il y a 3 % des gens qui vont se faire attraper. Donc, s'ils font 1 million d'appels, il y a 30 000 personnes qui vont se faire prendre. À 400 $ ça fait 12 millions à peu près. Donc, eux, c'est comme ça qu'ils procèdent. Et il y a un couple qui a été arrêté l'année dernière, le couple Dhaliwal. Là, je peux dire le nom parce que c'est dans les médias. Et c'est en Ontario. Et ce couple-là ont fraudé, ont fait tout près de 30 millions comme ça, avec 26 ou 29 centres d'appel qui opéraient en Inde pour ce type de fraude-là.
Fait qu'on dit tantôt des fois des femmes, des fois des hommes, mais c'est encore mieux quand t'as le duo.
c'était des jeunes, il avait 36, 37 ans, là, c'était pas, il était pas
des
vieux.
Des jeunes dans le business.
Tu peux te réorienter sur d'autres choses, Kevin aussi. Mais, waouh, c'est un gros waouh, ouais. C'est un gros coup de cœur, on le présumait, puis on l'a vécu. Je suis vraiment content que vous soyez présent. Merci Sylvain pour votre présence ici. Si jamais on veut avoir plus d'informations au niveau formation, ben, ça s'applique un peu moins avec l'Institution canadienne.
Oui, mais avec l'Institut, on a des formations qui vont être accréditées là, auprès de l'OASIC, l'AMF et tout ça. Donc, je vous invite là, à venir visiter mon site, là, sylvainparquette.ca, et vous allez voir plusieurs formations qui sont là. Et il y a quelque chose de particulier qu'on lance bientôt, mais je peux pas l'annoncer sur les ondes tout de suite, mais ça va être pour les femmes célibataires lorsque désirent enquêter sur quelqu'un, mais on va offrir une formation pour démasquer les imposteurs.
OK, cool.
Quand même cool, ça.
Complément Tinder.
Oui, c'est ça, mais tu sais, il doit en avoir un méchant paquet, justement, où ce que les femmes se font prendre dans des situations comme ça, puis...
On appelle ça les fraudes romantiques.
Puis il doit en avoir un paquet. Ça, ça pourrait être un autre capsule dans une autre émission, par exemple. Mais Sylvain, c'est wow, un grand plaisir de vous avoir reçu. Je vous remercie pour votre présence, puis de nous avoir partagé vos connaissances aussi. On veut en savoir, on veut en connaître plus. Encore un gros merci. Vous avez écouté La Bulle immobilière. Restez avec nous. Kevin Pépin avec Copy Management vient nous parler d'investissement immobilier.
CJMD 96.9.
Puis d'un autre côté, j'ai des ajustements que je peux faire plus rapidement aussi.
Ouais.
Tu sais, ça veut pas dire que le trimestre, c'est trop loin non plus. Tu sais, c'est moins pire qu'une fois par année quand on va voir notre comptable, puis qu'il dit, ah ben... Écoute, t'as une belle année cette année, continue, lâche pas, ou que tu arrives un an plus tard et qu'il te dit, oups, allez, tu sais, t'as eu beaucoup de dépenses cette année, tu vas te faire manger par l'impôt, t'as pas assez d'argent mis de côté. On veut pas savoir, tu sais, une fois dans l'année, on veut être mis à l'avant-plan de ça, on veut être mis au courant, puis définitivement que d'avoir ces rapports-là rapidement, ça fait partie de la game.
Oui, et si on fait le lien avec les autres indicateurs de performance, comment est-ce qu'on les calcule? Sur des chiffres.
Faire les rapports.
Donc, si t'as pas le rapport financier, si t'as pas la tenue de livre qui est faite, comment est-ce qu'on peut suivre la performance? Donc, c'est tout lié. C'est tous des vases communicants. Et c'est extrêmement important, je vous le dis, il y a bon nombre de partenariats. Et évidemment, on parle toujours des succès, on parle pas des échecs. Mais quand on entend parler des échecs, on les étudie. C'est pas pour blâmer seulement les gens, mais c'est pour apprendre des leçons. Et ça, c'est une grosse problématique.
Okay. C'est la transparence, je pense aussi, qui est importante.
Transparence d'informations financières.
Parce que le gestionnaire, peut-être que si ça n'a pas été établi, va dire, je vais attendre de te faire un rapport en fin d'année parce que je suis pas nécessairement dans un bon moment pour te présenter ça.
Ouais, mais il est jamais dans un bon
c'est
moment.
C'est ça. Puis finalement, peut-être que s'il y avait eu clairement, mettons, un trimestre qui était dû là, puis qu'il y avait eu un meeting avec le propriétaire, il y aurait eu un brainstorm. Finalement, on aurait décidé de prendre cette avenue-là ou cette façon de faire-là.
Exact.
Qui a jamais eu lieu s'il n'y a pas des checkpoints comme ça.
Puis ça peut être un très bon test au gestionnaire de dire, by the way, parce que, tu sais, plus que tu veux de l'information financière rapide, plus ça coûte cher. Et là, tu peux lui dire, ben, by the way, admettons, je veux avoir mes chiffres à tous les mois. As-tu l'infrastructure administrative? As-tu le back office derrière pour me livrer à temps cette information-là? Et ça peut être toute une question. Parce que ça va refléter à savoir, es-tu solide au niveau de sa business? Parce qu'il peut être super bon sur le terrain. C'est quelqu'un de super humain, quelqu'un qui comprend bien les chiffres et tout ça, mais que d'un point de vue management, dans back office, c'est un flop. Et ça, c'est important. Ça, c'est un super bel indicateur. Je vous dis, délai de production des rapports financiers, de tester le back office de votre gestionnaire, à savoir, est-tu capable de m'envoyer mes chiffres rapidement.
C'est-tu la même personne qui fait ça, qui fait le terrain aussi? Parfois, quand c'est des petites entreprises, mais qu'est-ce qui va arriver? C'est que la portion administrative ou gestion ou état financier, elle va toujours être au bas de la to-do. Là.
Exactement.
Fait que t'as-tu quelqu'un en place qui c'est sa job à temps plein de générer ça? Si oui, c'est quand même rassurant, là, c'est de bon augure.
Ben, tu vois, chez Copé M Valeur Immobilière, notre société de gestion immobilière, où est-ce qu'on offre des services intégrés, on a distingué la partie comptabilité de la partie gestion. Autrement dit, ce qui fait la comptabilité, nous, c'est notre cabinet comptable. Donc, on a vraiment une société où est-ce qu'on a des CPA à l'interne, on a des techniciens comptables qui, eux, ne font que de la comptabilité, toute industrie confondue. Ce que ça permet de faire, c'est qu'on a mis des gens focus sur la gestion et l'administration des immeubles et des clients et des locataires pour le service à la clientèle, la maintenance, la location. Et on a une entité, elle, qui est ultra focus sur les chiffres. Donc, ce que ça permet de faire, c'est qu'il y a une efficience puis un niveau d'efficacité qui est optimal dans les demandes des clients. Donc, il y a un client qui veut vraiment ses chiffres par mois, c'est aucun problème. Parce que les gens qui font de la comptabilité ne font que ça avec une business qui, elle, a son propre CPA, qui a ses propres procédures, donc qui est déjà équipé que pour faire que de la comptabilité.
Oui, une question qui me vient, ça serait-tu une bonne stratégie, par exemple, d'aller voir un gestionnaire puis dire de juste mettre une cible, c'est-à-dire le ratio de revenu net réel,
ouais,
puis dire voici ma cible, joue avec les autres, dans le sens que j'ai pas de cible de taux de vacances ou j'ai pas de cible de délai de location, ça prend 6 mois, pourvu qu'en fin d'année, le bottom line, ça soit celui-là.
Exactement.
Toi, tu ça comme une bonne stratégie ou on serait mieux d'aborder toutes les cibles?
Du avec moment où, ce que, selon moi, puis c'est très personnel, selon moi, quelqu'un qui a pas de stratégie du tout, qui n'amène juste une puis qui est celle-là,
c'est déjà
pas pire. Il établit déjà un indicateur.
Mettons qu'on essaie d'avoir la meilleure approche de ton expérience.
Ben, c'est sûr que nous, on réfléchit toujours en net, tout le temps. C'est sûr, c'est parce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de la gestion, c'est que oui, tu peux avoir le net de respecter, mais il y a un autre indicateur qu'on va arriver, là, qui est le taux de rotation des locataires. Tu peux avoir un problème d'inefficience parce que justement, tu as mal géré la qualité de tes locataires ou que tu prends des mauvaises décisions de gestion au day-to-day. Donc là, encore là, c'est sûr que si vous tenez à l'extérieur de la gestion, mais c'est pas de problème, là, parce que tu payes un prix, puis je veux dire, s'il y a des problèmes d'efficience dans le business, c'est lui qui va en payer le prix. Mais si vous internalisez votre propre gestion, moi, ça serait quand même des indicateurs qui m'inquiéteraient. Je me dirais, même si ma business est capable de respecter les revenus nets de mes clients, j'ai un problème de délai moyen de location, dépendamment de l'entente, encore une fois, puis du pricing entendu pour la location. En fait, c'est plus l'indicateur de performance doit vraiment être utilisé pour pas pour arriver et dire je te tape ses doigts, tu l'as pas eu. C'est pour être capable de flaguer qu'il y a un problème avant qu'il arrive. Puis être capable de diagnostiquer avant. Quand tu vois sur ton tableau de bord, là, wow, attends un peu, comment ça se fait que cet indicateur-là il a chuté? Ah, cet indicateur-là m'indique qu'il pourrait avoir un problème de ça, ça, ça et ça. Bien là, on va essayer d'être capable d'aller investiguer puis d'aller poser des questions puis de dire pourquoi c'est arrivé cet indicateur-là. Donc c'est à ça que, vraiment que les indicateurs doivent servir. Ensuite de ça, il nous reste le taux d'augmentation des revenus bruts. Donc, simplement à savoir, est-ce que vous avez un gestionnaire immobilier bonbon ou un gestionnaire qui a un propriétaire immobilier bonbon? Il y en a qui ne veulent pas augmenter leur loyer parce qu'ils aiment leur locataire. Puis c'est bien correct. On dévalorisera pas le fait d'aimer les gens. Là. C'est juste qu'à un moment donné...
C'est la base.
On prépare le revenu.
C'est parce qu'à un moment donné, vous avez acheté un actif, c'est un placement, vous devez protéger au moins sa valeur parce que sinon, la banque, elle, oui, le directeur de compte peut-être que vous aimez, mais la banque en tant que telle, elle n'est pas là pour
elle
vous
aimer. Elle n'aime pas vos locataires.
Ouais, c'est ça. Elle est là pour elle n'est pas là pour valoriser...
L'amour.
L'amour, exactement. Donc, augmenter vos revenus bruts, prêt de suivre justement l'inflation de vos dépenses, super important, mais encore une fois, c'est un indicateur qui est lié directement à vos revenus nets. Ensuite, on a le taux de rotation des locataires. Donc, c'est de savoir, j'ai combien de pourcentage de logements qui se ne renouvellent pas à chaque année. Évidemment, si vous êtes dans de l'habitation collective, de niche pour étudiants, ben, il y a fortes chances que tu auras un taux de rotation de 25-30% par année.
Mais ça provient de ta clientèle que tu as ciblée aussi. Là. Ah oui,
et voilà. Donc, il y a un lien directement. Taux de vacances, taux de mauvaise créance, délai moyen de location, tout ça sont des vases communicants ensemble et ça peut venir refléter directement qu'il y a une problématique parce qu'il y a un gros taux de rotation ou tout simplement que le service à la clientèle n'est pas adéquat ou que le building a des problèmes, que les gens vivent dans des logements qui sont pas adéquats et que personne ne fait rien, par exemple.
Ça, je dirais même juste pour enchaîner là-dessus, c'est important de le suivre parce que le gestionnaire, lui, qui reloue à chaque année, à la limite, ça, c'est pas nécessairement un problème pour lui parce que ça peut même être un service facturable parfois.
Exactement.
Fait que toi, comme propriétaire, c'est toi sur le long terme, en fait, qui absorbe cette rotation de locataires-là, tandis que le gestionnaire, lui, à la limite, c'est meilleur pour ses livres. Là.
C'est meilleur pour ses livres. Mais tiens, encore là, c'est ça. Ça peut démontrer, l'indicateur peut vraiment illustrer qu'il y a une problématique de décisions, que des mauvaises décisions qui sont prises au niveau des locataires. Ensuite de ça, on a un dernier indicateur qui est le coût de rotation des locataires. Donc, ça illustre vraiment le coût pour remettre un logement en état acceptable. Donc, par exemple, est-ce que vous acceptez pour chaque nouveau logement qui n'est pas neuf ou en bon état de mettre de la peinture, de refaire les planchers ou peu importe. Donc, c'est de savoir, est-ce que j'ai un taux de rotation élevé, mais est-ce que aussi mon coût de ce taux de rotation-là, il est élevé parce que tu as le frais pour la location, mais après ça, tu as le frais. Et tu pars un frais, les locataires peuvent arriver et dire, écoute, moi, je veux avoir le logement peinturé, j'aimerais ça que tu refasses le comptoir, j'aimerais ça avoir une nouvelle salle de bain, et là, j'accepte de te louer à tel prix. Donc, combien ça coûte? Donc, il y a le taux et le coût lié à ce taux-là. Parce que vous pouvez avoir d'excellents logements en bonne condition, avoir un haut taux de rotation de locataires tout simplement parce que vous avez un type de locataire qui bouge souvent, par exemple des étudiants.
Ou des 1,5-2,5, des fois qu'on va avoir beaucoup plus de rotation dans ce type de logement-là versus des 5,5-6,5 et plus. Mais souvent, c'est des familles établies, l'école, travail, etc. où est-ce qu'on va avoir un petit peu moins de vacances.
Et là, à ce moment-là, ton coût de rotation peut être plus faible. Évidemment, c'est un haut taux de rotation, un haut coût de rotation des locataires, ben ça peut ça être un indicateur qu'il y a une problématique dans l'immeuble.
Puis ça ne veut pas nécessairement dire que la problématique est dans l'immeuble, c'est aussi la configuration dans votre choix que vous avez fait aussi au niveau de l'immeuble, que ces paramètres-là, en ayant une bonne analyse, ben ça donne aussi des bons indicateurs pour améliorer vos choix. Fait que, tu sais, des fois, d'avoir l'occasion d'acheter un immeuble à revenus, par exemple, qui est déjà sous gestion, ça peut être des indicateurs que tu peux regarder déjà parce qu'on va être en mesure d'avoir ces chiffres-là puis de voir qu'est-ce qu'il y en est. L'investissement immobilier se fait pas nécessairement juste sur un coup de cœur. Hein. Il y a beaucoup de calculs, beaucoup de ratios, beaucoup d'informations qu'on doit aller chercher.
Mais là-dessus, Jeff, excuse-moi, mais c'est pertinent, comme tu dis, d'avoir quelques années derrière nous. T'sais, soit qu'on achète puis il y avait déjà une gestion en place ou nous-mêmes, on l'a déjà géré avant de le donner en gestion parce qu'acheter un nouvel immeuble puis arriver devant son gestionnaire et dire c'est ça, mes cibles.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.